Voilà trois nouvelles extraordinaires du Diois, de la Drôme et d'ailleurs par Jean-Claude Rouchouze, de Die. Histoire de chat Diois. Un jour, on a volé mon installation artistique. L'installation aux 6 biberons que j'avais placée à l'entrée de Die en faveur de la maternité. Ulcéré, je suis allé voir un chat fourré. Je lui ai exposé le problème. Mais il m'a dit qu'il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Il m'a écrit une bafouille que je n'ai pas pu lire, car il écrivait comme un chat. En plus, je le comprenais mal, car il était enroué et avait un chat dans la gorge. Il m'a dit que dans le Diois, on s'entendait parfois comme chien et chat. Je lui ai dit que maintenant j'hésitais à faire d'autres installations artistiques, car chat échaudé craint l'eau froide. Et que je donnais ma langue au chat, pour trouver qui avait volé mon installation. Il a conclu en disant qu'il fallait plus de policiers, car quand le chat n'est pas là, les souris voleuses dansent. Histoire de chevaux, Diois. Un autre jour, j'étais malade avec une fièvre de cheval. Heureusement, je suis allé trouver un médecin qui m'a donné un remède de cheval. C'est un médecin très rigoureux, toujours à cheval sur les principes. Son médicament, qui ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval, était original et efficace. J'ai retrouvé une santé de cheval, d'autant que j'ai toujours été un cheval de labour, sociable, ne montant jamais sur ses grands chevaux. D'ailleurs, bien guéri, je suis tout de suite allé visiter le palais du facteur cheval à Haute-Rive. Histoire de chien. Vous savez, j'ai mené une vie de chien. Je vais mourir comme un chien. Ma patronne me payait 800 euros par mois pour 50 heures de travail par semaine à la ferme. Je lui garde un chien de ma chienne. D'ailleurs, on se regardait en chien de faïence. Remarquez, elle avait quand même du chien. Un jour, j'ai eu envie de l'accuser d'être enragée, de la noyer dans la Drôme. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Mais j'ai renoncé, c'était le crépuscule et on ne voyait même plus entre chien et loup. Il faisait vraiment un temps de chien. Quelle chienne de vie, nom d'un chien. Histoire d'une oie. Cette jolie fille, c'était une oie blanche. Elle était bête comme une oie. La seule chose qu'elle savait bien faire, c'était le pas de l'oie. Histoire de loup, Diois. Je franchis le pas du loup avec aval croissant, près de Die, avec prudence, en marchant à pas de loup. J'ai une faim de loup, et vous savez, la faim fait sortir le loup du bois. Je suis un jeune loup, et ma louve, qui a vu le loup, m'appelle en minaudant son grand loup. Je n'aime pas les hommes, je préfère leurs moutons. L'homme est un loup pour l'homme. Ils sont toujours en train de se faire la guerre. Contrairement aux loups, ils s'imitent tous les uns les autres et adorent hurler avec les loups, c'est-à-dire les puissants. Ils sont doués pour se jeter dans la gueule du loup et enfermer leur loup patron, Macron, dans la bergerie des prolétaires. Moi, je suis du côté des insoumis. Mais ne le dites pas, car quand on parle du loup, on en voit la queue. Histoire de poule et de coq. Mon père était une mère poule pour moi. Pourtant, j'étais une poule mouillée. En plus, je l'avais ruinée en tuant la poule aux œufs d'or. Il m'a dit « Tu seras riche quand les poules auront des dents ». Ça m'a donné la chair de poule et j'étais rouge comme un coq. Mais bien vite, je me suis redressé, car je suis le coq du village, et toutes les jolies filles du canton me soignent comme un coq en pâte. Histoire de vaches, de taureaux et de bœufs. J'ai eu une vie difficile. J'ai souvent mangé de la vache enragée avec de nombreuses périodes de vaches maigres. Bien sûr, je n'ai jamais été une vache à lait. Une année, je me suis expatrié en Chine pour trouver du boulot. Mais j'ai échoué. Je parlais chinois comme une vache espagnole. En plus, dans ce pays, il pleut comme une vache qui pisse. Pourtant, je suis fort comme un bœuf. J'ai un coup de taureau. Et j'ai toujours su prendre le taureau par les cornes. Les femmes, je leur fais un effet bœuf. Mais je me méfie d'elles. Elles sont trop bavardes. Et avec elles, je garde toujours un bœuf sur la langue. Voilà une autre nouvelle, différente, qui peut se produire dans le Diwa, dans la Drôme et ailleurs. Son titre est « Éloge de la géométrie ». Vous savez, moi j'aime la géométrie. Plus précisément, l'art de la géométrie. Tous les jours, ou presque, je réalise une création géométrique. Tenez, je vais vous décrire ma dernière réalisation. Je construis mon œuvre à partir d'un cadre et de rayons. Je pars du centre du cadre et je crée une spirale tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et je diminue la courbure de chaque spire de l'intérieur vers l'extérieur. Puis, cette fois-ci, de l'extérieur vers l'intérieur, je construis une deuxième spirale collante, tout en détruisant la première qui n'était qu'un modèle. Je fortifie le tout par 22 rayons, allant de l'extérieur vers le moyeu central, où je me positionne avec satisfaction, car cela me permet d'admirer mon œuvre en pure soie bio, créé grâce à mes 6 filières. Ce que je ne supporte pas, c'est qu'un intrus vienne l'abîmer. Le plus souvent, ce sont des êtres à 6 pattes et à 1 ou 2 paires d'ailes. Dès qu'ils osent se poser sur mon œuvre, je surgis de ma tanière centrale, je les mords et je les pique avec mes chélicères, puis je les bouffe, plus précisément, je les réduis en bouillie avec mes pattes mâchoires et les denticules de mon pharynx. J'aspire le liquide ainsi obtenu grâce à la pompe de mon intestin antérieur. Dans la vie, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme à ce que l'on dit. Quand les intrus sont de plus grande taille, je les emballe de soie par précaution, car il y en a qui peuvent me piquer. Et j'absorbe tout. Malheureusement, s'ils sont très gros, je ne peux rien faire. Ils emportent des morceaux de mon chef-d'œuvre que je refais le lendemain, car je suis une obstinée. Je ne sais pas combien d'intrus j'ai liquéfiés, des dizaines, probablement. Un jour, je vois arriver un intrus d'un nouveau genre, qui, curieusement, me ressemble, bien que 2 fois plus petit que moi. Il a également 8 pattes, un céphalothorax et un abdomen. Il s'approche de ma tanière et me tend un intrus à 6 pattes emballé dans de la soie. C'est la première fois de ma vie que l'on me fait un cadeau. Flatté, j'attrape le cadeau et commence à le liquéfier. Mais ne voilà-t-il pas que ce compagnon à 8 pattes se place brusquement sous moi et me colle 2 sacs de je ne sais quoi sur l'abdomen. Furieuse, je l'attrape et je lui demande pourquoi il se permet de me coller des sacs sur l'abdomen et je lui arrache une patte pour qu'il ne revienne plus. Il s'éloigne vivement en stridulant que c'était pour mon bien et que ces deux spermathèques vont me procurer du plaisir et que grâce à lui, j'aurai 80 enfants. 80. Je ne sais même pas ce que sont des spermathèques. Il m'a dit que c'est mon parfum qui l'a attiré, qu'il est irrésistible. Il s'en va en caudiquant. Il aurait été de ma taille, par prudence. Je ne lui aurais pas arraché une patte, mais c'était une miniature, deux fois plus petite que moi. En plus, moche comme tout, velu, mal rasé. D'ailleurs, j'ai eu l'impression que pour m'échapper, il s'était autotomisé lui-même de son appendice, car lui enlever une patte m'a paru très facile. Je retourne me tapir dans ma tanière, vous m'y verrez au milieu de mon œuvre, me balançant dans le vent, admirant ma création de mes 8 yeux bleus. On dit que c'est une belle toile, bien que je ne sois pas peintre. Ce que je préfère, c'est que l'on dise de moi que je suis expert géomètre. Voilà la dernière nouvelle récemment écrite parmi les 52 que j'ai écrites, dont certaines que j'ai déjà lues à Radio Diwa. Le titre est « La travailleuse ». Il m'a fallu du temps et de la persévérance pour la trouver. Heureusement, mes capacités de grimpeur me facilitent la tâche. J'ai pu l'accueillir, cette graine secrète formée grâce à des champignons qui me sont inconnus, au centre de la couronne à labelle. Je connais ses propriétés aphrodisiaques et je tiens à l'offrir à ma reine, ma beauté. Aussi, je lui trouve une poche pour l'emporter et surtout ne pas la perdre. J'entre dans la forêt. Je connais la piste marquée aux odeurs des travailleuses. De part et d'autre, il y a des centaines d'arbres aux troncs aplatis et verts s'inclinant dans le vent. De temps en temps, surgissent des montagnes circulaires dont les sommets se perdent dans le ciel. À un moment, la piste est caillouteuse, puis elle est barrée par un haut mur qu'il me faut escalader sans perdre ma précieuse graine. À nouveau, elle devient praticable, bien que sableuse, et je manque de glisser à plusieurs reprises. Soudain, je me fige. Là, au-dessus de moi, se tient le danger. C'est un être monstrueux, aux gros yeux globuleux, aux petits yeux inquisiteurs, aux mâchoires en forme de pince. Je sais qu'il peut me fondre dessus et me déchiqueter. Je m'aplatis, je rampe, je passe sous l'arbuste aux grandes feuilles qui me rend invisible au monstre dont la seule beauté et le masque africain dont il s'honore. Je poursuis ma route, ou plutôt la piste. Brusquement, elle s'interrompt. Il y a devant moi un vaste désert aux odeurs de goudron. Mais à cette odeur s'associe celle des travailleuses. J'entre dans le désert, j'avance. C'est alors que je perçois un bruit, d'abord dans le lointain, mais qui s'approche de plus en plus. Le désert se met à trembler. Quelque chose d'inconnu pour moi surgit, plus de 1000 fois ma taille. C'est un cercle noir avec en son centre un métal brillant. Le cercle tourne à une vitesse incroyable. Il passe juste devant moi, sculptural, et disparaît dans le lointain. Je reprends vite ma marche. Finalement, le désert est moins grand que ce que je pensais, et me voilà à nouveau dans la forêt. Je passe sous d'élégantes plantes aux feuilles dentées, garnies de nombreux glomérules marrons, certains laissent échapper une poussière brune. Un avion passe, silencieusement, au-dessus de moi. Il a quatre ailes aplaties, colorées en jaune, et d'immenses antennes. Je le sais inoffensif. Je poursuis ma route avec obstination. Je croise de nombreuses travailleuses que je salue avec respect. Dans la vie, mieux vaut être prudent. On ne sait jamais. Elles pourraient être armées. Elles sont innombrables. L'une d'elles pourrait avoir l'esprit tordu. Une autre pourrait deviner que ma graine a des propriétés aphrodisiaques, qu'elle fait monter au septième ciel et s'en emparer. Mais elle aussi me salue avec respect. Donc, tout va pour le mieux. J'avance sur la piste, je marche longtemps, longtemps, longtemps. Relevant la tête, je vois se profiler dans le lointain l'immense palais où se loge ma reine. Il n'a pas encore de panneau photovoltaïque, mais était entièrement en bois, fait de milliers de poutres entremêlées. Je connais ces multiples entrées, mais j'ai mon entrée favorite. Celle où se trouve la gardienne que je connais, mon amicale et cordiale copine Mifour 2025. Elle est là. Je m'agenouille devant elle, caresse ses antennes télescopiques avec les miennes. Elle me reconnaît et je peux entrer. Il fait noir, mais je sais marcher et voir dans la nuit. Le palais de ma reine est un immense labyrinthe parsemé de cavernes où il y a des stocks de nourriture et même des cultures où s'affairent les travailleuses. Certaines ne sortent jamais et sont ravitaillées chichement par celles qui vont au dehors. Je continue à avancer. Je sais que j'approche du but, car de plus en plus, le tunnel où je suis a d'impressionnantes travailleuses gardiennes qui me scrutent avec circonspection, sinon férocité. Soudain me voilà dans la chambre de ma reine. Ma beauté, mon amour, je suis fou, amoureux de toi. Je t'admire et je t'adore. Tu es tout pour moi, mon passé, mon présent, mon avenir, ma déesse. Elle me regarde, son regard me transperce, des milliers d'influx nerveux parcourent tout mon corps. J'agenouille ma première patte, ma deuxième, ma troisième, ma quatrième, ma cinquième, ma sixième. J'abaisse mes antennes, elle me touche avec les siennes, au contact divin. Merci mon amour, mon éblouissante reine. Je lui tends ma graine aphrodisiaque, elle s'en empare, la décortique avec gourmandise et la déguste avec délectation. Je me recule lentement, je fais demi-tour, je circule à nouveau dans d'innombrables couloirs, je sors enfin de la fourmilière, car fourmi travailleuse je suis, fourmi travailleuse je reste. C'était la dernière nouvelle donc écrite par Jean-Claude Rouchouz en mai 2023. Merci bien.